Allez, on va commencer. Comment ? D'accord, d'accord.
C'est pas la quantité, c'est la qualité.
Voilà. Bien. Bien, nous sommes heureux de vous accueillir aussi nombreux. Nous vous remercions d'être là. Ce qui va vous être présenté aujourd'hui prend place dans le cadre des ateliers création et recherche, qui sont eux-mêmes au sein du parcours des sciences de l'Université de Poitiers. Et comme cela est annoncé sur le programme, que je n'ai pas là sous les yeux, mais en fait, ce qui est annoncé, c'est que les chercheurs vont à la rencontre du public. Et il se trouve que c'est bien de ceci au sens propre qu'on va vous parler justement dans cet atelier, puisqu'il s'agira de vous parler du public des spectacles et de vous présenter une recherche qui est une collaboration, une forme de collaboration entre les sciences sociales et la production d'un festival cinématographique qui est le Festival international des écoles de cinéma, le festival Henri Langlois, les rencontres Henri Langlois, pardon. Et cette enquête a porté, alors là je vais cadrer très largement ce qui sera dit au cours de cette table ronde, et les personnes qui sont là le préciseront les choses tout à l'heure et pourront les préciser encore plus si, en fonction de vos remarques, de vos questions, etc. Il s'agira de parler du ou des publics de ce festival. Alors ce travail qui a été réalisé par Anne Cavaroc, ici présente, qui a un master 2 de recherche de sociologie, est issu de la rencontre entre la sociologie et puis des acteurs de ce festival, puisque à l'origine, donc, il y a eu des discussions autour des travaux de chacun, et que, autour d'une curiosité mutuelle sur le travail qu'on pouvait réaliser, une des coordinatrices du festival, Christine Massé-Jamin, qui n'est pas là aujourd'hui, avait entamé avec moi une discussion autour de comment se passait le festival et surtout quels étaient les publics ou le public. Voilà, au départ, l'interrogation, c'était le public, et puis bien évidemment, la sociologie a répondu en termes de public avec S. Voilà. Donc cette demande ensuite a débouché sur une demande concrète, et Luc Angélibert, directeur artistique des rencontres Henri Langlois, qui vous en dira un petit peu plus tout à l'heure, a participé à l'élaboration de cette demande avec Anne Cavaroc et puis Vincent Slaslisé, qui est maître de conférence en sociologie à l'Université de Poitiers, comme moi-même. Tous les deux, nous sommes sociologues de la culture et nous avons encadré ce projet de recherche. Voilà. Alors, sur ce projet a travaillé également Isabelle Pilot, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, qui ne peut pas être parmi nous, mais qui est étudiante en M2 également et qui a participé à élaborer cette recherche. Non seulement, donc toutes les deux, Anne Cavaroc et Isabelle Pilot, ont mené la recherche sur le terrain, mais ont également analysé les résultats et produit un rapport de recherche. Voilà. Donc, cette rencontre a produit une enquête qui répond à un questionnement de commanditaire, mais en fait, cette rencontre produit également d'autres résultats, c'est-à-dire que en retour de cette commande d'organisateurs, etc., les sociologues impliqués ont produit une réponse, mais une réponse qui va plus loin pour eux que la réponse à ces commanditaires, qui produit aussi des résultats qui viennent les informer sur des questions de sociologie plus générale, sur les publics des festivals, et sur des questions organisationnelles, institutionnelles, etc. Et donc, en fait, finalement, c'est une collaboration qui permet non seulement de produire, de répondre à une demande, mais aussi de répondre à une demande, je veux dire, des deux côtés, du côté des sociologues, mais aussi du côté des commanditaires. Voilà. Donc j'espère que ce moment de présentation va ouvrir aussi sur des nouvelles pistes de réflexion, etc., en fonction de vos remarques, de vos questions, etc. Alors je vais tout de suite laisser la parole à Vincent Slaslisé, qui va nous en dire plus un petit peu sur justement cette sociologie des publics. Je vous remercie.
Merci, Laurence. Alors, voilà, pour replacer un petit peu ce que va présenter Anne Cavaroc plus tard sur l'enquête sur le Festival Henri Langlois, sur le public du Festival Henri Langlois, dans un contexte plus large qui est celui de la sociologie des publics, je vais donc vous présenter un petit peu cette sociologie. En fait, c'est une dimension, la sociologie des publics est une dimension majeure de la sociologie de la culture. La sociologie de la culture, c'est une sociologie qui s'intéresse beaucoup au rapport à l'art, au rapport à la culture, aux consommations culturelles, à la réception des biens culturels, voilà, et donc au public en général, essayer de cerner qui sont les publics de tel, par exemple d'un festival comme les Rencontres Henri Langlois, mais aussi voilà, il y a des études sur les, il y a des ouvrages de sociologie qui existent sur les publics du rap, sur les publics du jazz, etc. Bref. Et cette sociologie des publics, elle est née en fait au milieu du XXe siècle, fin des années 50, début des années 60. L'une des enquêtes assez connues en sociologie des publics, c'est l'enquête de Bourdieu, donc Pierre Bourdieu et Alain Darbel, sur les visiteurs des musées d'art en Europe. Une enquête qui a porté sur les visiteurs de plusieurs musées européens. Et puis, donc ça c'est un des travaux pionniers sur les publics. Et puis, alors une des raisons de la mise en place d'enquêtes sur les publics, c'est aussi bien sûr la mise en œuvre antérieure d'une politique de la culture. Une politique de la culture qui donc était partie du constat que l'accès à la culture était très peu démocratique, était même très réservé en fait à certaines catégories sociales. Et que, bon, voilà, c'est le programme d'André Malraux, voilà, il fallait donc démocratiser la culture, et donc pour cela mettre en place une politique culturelle qui permette donc à certains publics qui n'accédaient pas au spectacle, la question se posait un peu moins pour le cinéma à l'époque, mais au musée, au spectacle vivant, etc., d'y accéder. Et donc des moyens ont été mis en œuvre pour favoriser cela. Alors évidemment, la politique de la culture des années 60 et tout ce qui a suivi aussi, avec un investissement très important aussi dans les années 80 sous le ministre de la Culture Jacques Lang. Et donc... parallèlement à la mise en place de cette politique culturelle, eh bien, a été mise en place aussi une enquête sur les pratiques culturelles des Français, qui était une enquête qui visait quand même, entre autres, à mieux connaître les pratiques culturelles des Français, mais aussi à savoir si la politique culturelle mise en œuvre portait ses fruits. C'est-à-dire, est-ce que, oui ou non, on pouvait constater une démocratisation de l'accès à la culture. Voilà. Alors, ces grandes enquêtes sur les pratiques culturelles des Français, la première édition a eu lieu en 1973. Après, il y en a une à peu près tous les 8 ans, tous les 8-9 ans. La dernière en date est celle de 2008. Et donc voilà, ça c'est un pan important de la sociologie des publics, parce que c'est pour tous les sociologues de la culture, de l'art et de la culture, une référence, si vous voulez, parce que c'est la seule grande enquête, enfin à cette échelle-là. Il y a un volet dans une autre enquête de l'INSEE qui porte un peu sur les pratiques culturelles, mais il n'y a pas autant de questions sur les pratiques culturelles. Là, celle-ci, donc c'est une enquête qui est conduite par le département des études de la prospective et des statistiques du ministère de la Culture. Et c'est la seule, c'est le seul repère qu'on a à date régulière comme ça pour savoir qui fait quoi en gros en matière de culture, hein, qui va voir quoi, et est-ce que on a de plus en plus de gens qui vont au théâtre ou moins, est-ce que la lecture baisse ou monte, la lecture de quoi d'ailleurs, des bandes dessinées ou des romans policiers ou des classiques de la littérature, voilà. Donc ça permet de beaucoup mieux connaître tout ça. Et évidemment, bon, ces enquêtes-là, elles ont été mises en place, donc, comme je le disais également, pour savoir si, oui ou non, l'accès à la culture devenait de plus en plus démocratique. Bon, alors, le constat est pas... est plutôt, enfin, la réponse à cette question, si on la pose comme ça, est plutôt négative. C'est-à-dire qu'il y a un accès un peu plus grand à la culture, mais en réalité, les écarts entre les catégories sociales restent très présents. et restent à peu près les mêmes. C'est, voilà. Évidemment, donc les cadres et professions intellectuelles supérieures vont beaucoup, sont des grands consommateurs de culture, et à l'inverse, pour schématiser, pour aller vite, ouvriers, employés, les classes populaires restent en grande partie à l'écart de ce qu'on appelle la culture. Alors, cela dit, dans les enquêtes sur les pratiques culturelles, il y a aussi la télévision, etc., où là, les résultats ne sont pas les mêmes. Hein. Mais pour tout ce qui est théâtre, danse, musée, littérature, etc., bon, voilà, les constats restent à peu près les mêmes. Ça ne veut pas dire que la politique culturelle n'a servi à rien, au contraire. Enfin, je veux dire, par exemple, si on regarde au niveau des régions et au niveau d'une ville comme Poitiers, évidemment, l'offre culturelle et donc la consommation culturelle ne seraient pas du tout les mêmes s'il n'y avait pas eu la mise en place d'une politique culturelle. Hein. Voilà, c'est très clair. Voilà. Alors, ensuite, cette sociologie des publics, elle ne s'arrête pas là. Hein. Ce n'est pas juste les enquêtes sur les pratiques culturelles des Français, loin de là. La multiplication des festivals, notamment dans les années 80 et 90, a entraîné une demande aussi de la part des organisateurs de festivals. Je parle des festivals, mais ça va aussi pour les institutions comme les scènes nationales ou autres. A entraîné une multiplication aussi des demandes de connaissances sur les publics. Hein, sur les publics de tel ou tel festival. Et donc, en général, on fait appel soit à des sociologues, soit à des cabinets d'études, mais dans lesquels il y a aussi des sociologues ou des gens qui ont été formés à la sociologie. Et donc, cette sociologie des publics, c'est aussi ça. C'est aussi de nombreuses études comme ça sur différents lieux culturels, différentes institutions culturelles, différents festivals. Il y a des ouvrages assez connus qui ont été publiés sur le public du Festival d'Avignon, sur le public du Festival de Cannes. Voilà. Et donc, il y a des enquêtes comme ça, soit demandées à des universitaires, soit à des cabinets d'études, mais qui s'inscrivent toujours généralement dans ce qu'on appelle une sociologie des publics. Cette sociologie des publics, elle cherche à connaître les caractéristiques d'un public, à connaître éventuellement les attentes aussi, les représentations d'un public, attentes d'un public à l'égard d'un festival par exemple, mais aussi aux représentations d'un public à l'égard de ce festival, comment le public voit le festival, etc. Du côté des sociologues, c'est parfois pour essayer de c'est dans un but de connaissance. Du côté des commanditaires, c'est en général pour essayer de soit d'améliorer l'image d'un festival, soit pour ou d'une institution, soit pour développer. C'est le développement du public aussi, hein, qui est en jeu, bien sûr. C'est aussi ça. C'est aussi là-dessus que les commanditaires veulent s'appuyer pour développer leur public. Et en fait, la problématique centrale en général, bon, en tout cas pour les sociologues, de cette sociologie des publics, elle est assez, on peut l'énoncer de façon assez simple, quoi. C'est quelles sont les relations qui existent entre une institution culturelle ou un festival, c'est-à-dire ses propriétés, son implantation dans une ville, sa programmation, son l'architecture d'un bâtiment, etc., qui accueille une manifestation ou qui est le lieu culturel en question. Donc, quelles sont les caractéristiques d'une institution culturelle ou d'un festival, et en quoi ces caractéristiques sont en relation avec les propriétés ou les caractéristiques d'un public qu'on peut connaître donc à travers une enquête sur les publics du lieu. Essayer de comprendre quelles sont les affinités d'un point de vue sociologique entre un public qui est par exemple plus très féminin, situé plutôt dans les catégories intermédiaires, catégories sociales intermédiaires, et puis une institution qui a telle ou telle programmation, qui offre tel ou tel bien culturel, etc. Donc la problématique centrale, c'est généralement ça. Et voilà, donc c'est un peu à ça qu'essaye de répondre la sociologie des publics en général, au-delà peut-être de... Il y a un autre aspect qui est un aspect purement sociographique, c'est-à-dire connaître les caractéristiques sociales des publics en termes de répartition par âge, par sexe, par catégorie socio-professionnelle, par catégorie diplôme, etc., etc. Voilà, voilà pour... la présentation de ce que c'est que la sociologie des publics, donc, et non pas du public. C'est vrai que le S vient s'ajouter aussi avec les publics de la culture. On parle de public au pluriel, parce que notamment c'est aussi lié à ce qui a prévalu dans les années 80 et 90 au niveau de la politique culturelle. C'est l'idée de démocratie culturelle et pas seulement de démocratisation de l'accès à une culture qui est celle des grandes œuvres de l'art et de l'esprit, c'est-à-dire une culture avec un grand C, mais aussi l'idée qu'il y a des cultures multiples, voilà, enfin, avec l'exemple du graffiti, du rap, etc., de formes culturelles qui n'étaient pas légitimes auparavant, enfin, et voilà. Et donc il y a des publics, et quand même pour une même institution, il y a en réalité des publics qu'il faut distinguer, voilà, avec des raisons d'aller au TAP, par exemple, qui peuvent être différentes selon les différentes catégories de publics, etc. Et voilà, voilà donc un peu pour faire le pour présenter cette sociologie des publics.
Merci Venceslas. Je vais laisser la parole maintenant à Luc Angélibert qui va nous présenter un petit peu les contours donc de ce festival, son histoire. Enfin, on va le laisser nous dire un petit peu ce qu'il en est. Merci. Oui.
Moi, j'avais préparé tout un historique qui balaye 34 ans de festival, mais je vais faire court, je vous promets. Mais alors c'est intéressant ce qui vient d'être dit. Je ne suis pas du tout sociologue, mais c'est vrai qu'à travers la manière dont vous présentez la sociologie des publics, il y a plein d'interrogations qu'on a, nous, quand on crée une matière culturelle dont on pense qu'elle a du sens. Et des fois, on s'enferme dans des schémas de représentation de ce qu'est le public qu'on vise. Et on s'aperçoit que ce n'est pas forcément celui-là qui finalement vient nous voir. Et donc on se dit, bah alors ça veut dire que celui qu'on visait, il ne vient pas. Donc il faudrait qu'on comprenne pourquoi, etc. Donc c'est énorme. Heureusement qu'il y a des universitaires qui cherchent pour nous, parce que nous, tout seuls, on n'y arrive pas. Pour reprendre donc cette historique des rencontres Henri Langlois. Les rencontres Henri Langlois, elles ont trouvé leur origine à Tours, à la ville de Tours. Il faut savoir que Tours, entre 1956 et 1971, grâce à son festival de court-métrage, était la capitale mondiale du court-métrage. C'était le plus gros festival du monde de court-métrage, et ça se passait à Tours. Et à l'époque, Henri Langlois, qui était le créateur de la Cinémathèque française à Paris, était un ami très proche d'un monsieur qui s'appelle Lionel Tardif à Tours, qui était directeur d'un cinéphile, directeur d'un centre socioculturel de Tours Nord, Saint-Symphorien pour ceux qui connaissent, et ils ont décidé d'implanter pour que toute la matière cinématographique qui avait été là, le public, l'envie de découvrir des œuvres, etc., qui avait prévalu pendant toute cette période du festival de court-métrage, puisse continuer. Donc ils ont décidé d'implanter une antenne de la Cinémathèque française quand le festival de court-métrage de Tours s'est arrêté. Il a été repris après à Lille, qui a été pendant des années aussi une capitale du court-métrage. Et donc, en tout cas, Henri Langlois a mis les pieds à Tours à l'occasion de la création de cette antenne française, de la Cinémathèque française. Cette Cinémathèque a été inaugurée en 72 à Tours, avec une projection d'Ivan le Terrible. Enfin, ça avait fait toute une histoire sur la ville de Tours. Et puis en 75, toujours à travers la Cinémathèque, ils ont organisé pour la première fois une manifestation de la Cinémathèque, mais qui s'apparentait à un festival, puisque pendant 24 heures sur 24, pendant une semaine, 250 films ont été projetés à Tours. Et ce sont bien ceux qui avaient du monde, qui avaient du public, qui venaient voir ça. Et donc, ils se sont dit, faut pas s'arrêter en si bon chemin. Et comme il se trouve que la ville de Tours avait été très, très désolée que ce festival de court-métrage qui amenait quand même beaucoup de monde d'un peu partout, du monde entier d'ailleurs, dans la ville de Tours au moment de ce festival, s'est adressé à ces deux personnages qui faisaient vivre un peu la vie cinématographique locale en disant, est-ce qu'on ne peut pas repenser un festival qui serait particulier à la ville de Tours, dont on viendrait, qui pourrait avoir la même aura que le festival du cours, et etc., etc. Et donc l'idée à ce moment-là qui est apparue la plus... Alors on ne sait pas bien si c'est Tardif ou Langlois qui le premier a eu l'idée. Toujours est-il que Langlois disait, moi j'ai passé toute ma vie à conserver des œuvres sans les classer, le temps, c'est le temps qui choisira lesquelles sont des grandes œuvres ou pas des grandes œuvres. Il a dit, ben, je vais quand même peut-être m'occuper un peu du renouveau de ce cinéma et de donner un petit peu la parole à ceux qui vont être les cinéastes de demain, puisque j'ai déjà gardé tout ce qui existe des cinéastes d'aujourd'hui et d'hier. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé, de mettre en place un festival de films d'école de cinéma, de films de fin d'études, ça s'appelait à l'époque, festival de films de fin d'études. Et donc Langlois a contacté de très très nombreuses écoles dans le monde entier, etc. Et la première édition a eu lieu donc en 77 à Tours. Langlois est mort un mois avant la première édition. Et donc c'est pour ça que l'équipe qui était là avec Tardif pour organiser ce festival a décidé que ça s'appellerait les Rencontres Henri Langlois. Et donc ça s'appelle depuis cette date-là les Rencontres Henri Langlois. Voilà, la cinémathèque de Tours l'a donc organisée pendant 4 ans. Et puis, au bout de 4 ans, on s'est aperçu que ce n'était pas le rôle d'une cinémathèque. Enfin, ça devenait très difficile. Ce n'est pas le rôle d'une cinémathèque qui a des réglementations internationales très précises d'organiser un festival. Donc, ça a été confié à une association, loi 1901, qui est restée à Tours jusqu'en 89. Et elle s'est fâchée avec la ville de Tours, en 89, parce que la directrice de l'époque s'appelait Maryse Berchon de Fontaine, avait considéré que ce festival qui avait vocation d'accueillir toutes les cultures et de mettre au même niveau tous les créateurs ne pouvait pas se satisfaire d'une ville qui avait accepté que l'université d'été du Front National se passe dans ses murs. Donc c'est parti sur un problème complètement politique et ils ont, du jour au lendemain, décidé de quitter la ville de Tours. À l'époque, c'était Jacques Lang qui était ministre. Ils ont frappé au ministère en disant « Trouvez-nous une ville pour nous accueillir ». Et à l'époque, la ville de Poitiers, Jacques Centreau, qui était le maire, qui était déjà le maire, il y est resté un certain temps, a tout de suite dit « Je vais faire la nique un peu à Tours, c'est bien pour Poitiers, parce que c'est deux capitales régionales qui avaient... » Non, c'est pas la capitale, d'ailleurs, Tours, c'est Orléans, la capitale de la région centre, mais enfin bon... On finalement décidé de s'installer ici avec le soutien de la ville de Poitiers, du Centre national du cinéma, du ministère, etc. Et donc depuis cette date, le festival est ici. Alors, l'idée du fait des rencontres Henri Langlois, ça n'est pas seulement de montrer des films, hein, mais il est surtout aussi de permettre à des jeunes réalisateurs à la fois de trouver un premier public, hein, puisque c'est ça qui était important pour ces films de fin d'études. Ça leur permet de voir si la manière dont qu'ils ont d'écrire le cinéma trouve un écho. Est-ce qu'ils se sont trompés et qu'il ferait mieux de faire autre chose, médecin ou charcutier, j'en sais rien, mais pas cinéaste. Donc c'est cette première idée qui est intéressante pour eux. Et puis la deuxième, c'est l'idée de ces rencontres. C'est pour ça que le nom est resté, parce que c'est ça la philosophie du festival, c'est de favoriser à travers ces rencontres un échange entre ces jeunes réalisateurs et des professionnels plus confirmés, et aussi, surtout un échange entre des jeunes réalisateurs de tous les pays du monde. Quand ils sont là, si vous venez au festival, vous verrez, il y a 30 jeunes réalisateurs qui parlent un anglais improbable de plein de pays. Eh ben, ils voient tous les films les uns des autres, ils ne se quittent pas, ils restent en groupe et très très vite ils savent qu'ils se parlent à peu près du même endroit, qu'ils ont les mêmes sensations, voilà, que la langue n'est pas forcément nécessaire. Et donc c'est vrai que ça permet aussi l'émergence de ça permet de jeter les bases, disons, de projets qu'on peut développer en commun. Donc la partie compétitive du festival n'a pas changé. On est resté fidèle à cette idée d'Henri Langlois, c'est qu'elle est exclusivement consacrée aux films d'études, de fin d'études, des films d'école de cinéma. Alors maintenant, il y a des films qui sont déjà des fois en deuxième ou troisième année, parce qu'ils font des films complets, des fois en cours de cursus, mais il n'y a pas d'autre chose dans la compétition. Et ce qui est très important pour tous les jeunes réalisateurs qui viennent et qui nous le disent, c'est qu'il y a plein de festivals où on a une section film d'école, mais on voit bien que les paillettes, le strass, l'accueil à la gare avec une limousine, tout ça, c'est pour les vedettes qui viennent, et nous, pouf. Bon. Ici, il n'y a pas de limousine non plus, hein. Mais au moins, ils savent que c'est fait pour eux. C'est complètement pour eux, c'est eux qui sont à l'honneur, et c'est très important pour ça. Bon, il a bientôt 8 ans, donc une nouvelle équipe a pris les rênes de cette... de la destinée des rencontres, et donc ça a correspondu en même temps à l'apparition de tous ces outils légers de production numérique, qui fait qu'on est resté nous très très attentifs à cette question, évidemment, puisque il y avait là tout d'un coup l'émergence d'un flot d'images dont beaucoup n'étaient pas vraiment de la création cinématographique, mais la difficulté pour nous était de rester sur une ligne d'un travail qui s'apparentait à celui du cinématographe, avec effectivement des films qui avaient un point de vue, une capacité d'écrire des images, parce qu'il y a une grammaire de l'image minimum. Et toutes ces réalités-là nous ont fait nous interroger sur est-ce qu'on est encore tout à fait pertinent avec ce qui va se faire aujourd'hui dans la création audiovisuelle, si on tient bon sur cette ligne-là. Donc ces questions sont à l'œuvre chez nous en permanence, et donc on a choisi de défendre cette singularité de ce qui fait l'image cinématographique, et donc l'idée qu'il y ait une vraie culture cinématographique. C'est en ce sens-là qu'on dit qu'on reste fidèle au projet d'Henri Langlois, et pourtant on a bien été obligé d'ouvrir le festival en dehors de sa compétition qui reste exclusivement ça à plein d'autres choses. À côté de la compétition internationale, il y a chaque année la visite un peu en profondeur d'une région du monde qui est dont on a trop peu de nouvelles parce que les pays sont pauvres, parce que l'État n'y est pas bien organisé, pour toutes ces raisons. On voit assez peu des productions de ces pays, et on s'aperçoit qu'en fait ces pays-là sont très très demandeurs de venir confronter le travail de leurs étudiants avec des étudiants européens ou des étudiants d'ailleurs, parce que ça leur permet à la fois eux-mêmes de monter de niveau, et ça permet surtout dans un travail un peu planétaire maintenant, de coproduction, etc., de faire en sorte que se crée petit à petit dans ces pays-là une industrie, réellement, comme il existe dans la plupart des pays d'Europe ou aux États-Unis, une industrie du cinéma. Voilà. Et donc, à côté de ces focus-là, deuxième autre section importante du festival, c'est ce qui s'appelle pour nous la leçon de cinéma, qui n'a de leçon que le nom, et qui est cette idée que pour présenter à des publics ou pour présenter à des jeunes réalisateurs qui sont des professionnels en devenir, mais qui sont encore un peu tâtonnants, l'idée que le cinéma, c'est très très multiple, c'est un travail d'équipe, et qu'il y a, et que c'est plutôt que d'avoir une leçon de cinéma classique où il y a un fauteuil avec un journaliste qui interviewe un réalisateur sur qu'est-ce que vous avez fait, je passe un extrait, etc., de voir un acte artistique en train de se faire sous ses yeux. Donc c'est pour ça que toutes les leçons de cinéma du festival sont toujours assez particulières, où on recrée complètement, on met en place un dispositif qui permet à un monteur de travailler dans son créneau de montage, à un metteur en scène de travailler dans sa direction d'acteur. Cette année, ça va être sur la musique. On va faire un travail particulier avec un réalisateur et son musicien sur des extraits de films, des détournements de films, et la manière dont la musique peut changer complètement l'atmosphère d'une scène et peut-être complètement le sens de cette scène-là. Voilà. Donc, à partir de là, nous, on a organisé notre festival en regardant un petit peu ce qui se passe autour de nous, en ouvrant des portes pour accueillir des jeunes réalisateurs à travers d'autres petites sections dont j'ai pas parlé, qui n'a pas l'importance de développer ici. Mais, et on s'est dit, fatalement, ce qui nous paraît plus cohérent, c'est d'imaginer que le public qui peut être intéressé par, par cette ouverture à des auteurs jeunes, c'est des jeunes qui ont à peu près des préoccupations dans les mêmes tranches d'âge, etc. Et puis on s'aperçoit d'une chose, c'est que on avait aussi, nous, alors peut-être une mesure un peu faussée, c'est pour ça que cette enquête nous a ouvert quelques petits horizons, mais on avait une perception un peu faussée parce qu'on s'est dit, tiens, mais on a aussi, par exemple, tout le public du cinéma d'art et d'essai toute l'année, du Tap Cinéma, et là qui est plutôt un public art et essai adulte, classique, 30-50 ans, qui sont les gens majoritaires du Tap Cinéma, qui viennent découvrir des œuvres art et essai recherche, version originale, etc. Et on s'est dit, bon, ces publics-là, on les voit là, mais bizarrement, pas du tout en grand nombre comme ceux qui viennent au Tap Cinéma. Et pour autant, on n'a pas l'impression, on a l'impression que le public jeune qu'on vise, qu'on cherche à grandir, est plutôt celui qui vient de façon encadrée par des écoles, des classes, des choses un peu organisées de façon... Une UFR de l'université qui viendrait, quand il y a eu la rencontre avec Ritipan, il y avait 200 étudiants, art du spectacle et autre chose qui est venu là-bas. On s'est dit, bon, est-ce que finalement, s'ils étaient tout seuls, est-ce que ces jeunes-là viendraient ? On est dans un flou assez formidable, ce qui fait que on se posait la question de savoir si on avait, nous, une capacité de comprendre suffisamment tout seul ce public en disant qu'on a certainement besoin d'améliorer cette connaissance parce que ça nous permet de réorienter à la fois d'avoir une communication du festival en direction d'autres publics. Et c'est vrai que on communique pas avec un public de 50 ans, en direction d'un public de 50 ans comme en direction d'un public de 20, qui ne lisent pas les mêmes choses, ils ne regardent pas les mêmes supports, ils n'entendent pas les mêmes radios, etc. Donc il y a toute cette chose-là. Et puis dans les pratiques à la fois festives qui sont les à côté du festival, mais qui sont très importantes parce qu'elles font un ciment entre les publics dans les soirées que l'on fait, etc. Ou effectivement, si on fait une soirée tango le jeudi soir, je ne suis pas très sûr que ça soit tout à fait là, alors qu'une autre forme de soirée peut être beaucoup plus appréciée du public que l'on a. Et y compris dans les propositions artistiques. On voit bien qu'on est aujourd'hui obligé d'être très attentif parce qu'on a une demande qui fait pression de jeunes qui n'ont pas vraiment suivi de formation, qui n'ont pas fait d'école de cinéma et qui pour autant produisent de l'image avec des outils extrêmement légers de production. On s'aperçoit d'ailleurs qu'il y a des choses extrêmement plutôt bien faites qui se sont créées leur propre grammaire du cinéma, mais elle est pas mal. Et donc voilà, est-ce qu'on ouvre à ça, parce que est-ce que c'est aussi ça que pourrait attendre par exemple le public jeune qu'on voudrait vraiment capter. Voilà, on a toutes ces interrogations là. Et bon, quand on a rencontré effectivement l'équipe qui a mené cette étude. Bon, l'idée j'ai pas parlé d'autre chose, puis je crois que ça va pas être le lieu aujourd'hui, mais c'était de dire, voilà, il y a une première chose, c'est qu'on s'appelle les rencontres Henri Langlois. Dans les jeunes, qui sait encore qui est Henri Langlois ? On se dit, peut-être pas grand monde, mais en même temps, on peut pas historiquement gommer ça. D'autre part, parce que dans un certain nombre de tous nos partenaires institutionnels, qui sont plutôt dans les milieux de la culture, forcément, toucher Henri Langlois, pour eux, leur paraît une hérésie totale. Et d'autre part, on sait qu'à l'international, c'était la réplique du maire de Poitiers, M. Centreau, qui m'avait beaucoup amusé à l'époque, quand il m'avait rencontré la première fois. Il me dit, c'est vous le nouveau directeur, hein. Figurez-vous que si j'ai racheté le nom d'Henri Langlois au liquidateur, puisque ça avait fait faillite, c'est parce que quand je suis allé cet été au Mexique, j'étais à une réunion à l'ambassade, à une réception à l'ambassade. Il y avait plein d'invités mexicains. Tout le monde savait qui était Henri Langlois. Personne ne savait où était Poitiers. Donc je me suis dit, il ne faut pas que je perde ça pour Poitiers. Donc je rachète Henri Langlois. Ça reste Henri Langlois. Donc c'est pour dire que, voilà. Donc la grosse interrogation pour nous, elle était là aussi. Donc c'est vrai que une des questions était liée à la... à la perception du nom. Est-ce que ce nom est un handicap ou pas? Ça faisait partie des demandes qu'on avait pour cette étude. Et puis, il y avait une deuxième volet à cette étude, qui était là vraiment un volet sur le public du festival, les publics du festival. Quels étaient-ils et quelles étaient aussi leurs attentes aussi par rapport à une proposition artistique? Est-ce qu'on était à côté de la plaque? Est-ce qu'on était dedans? Est-ce qu'il fallait éventuellement qu'on envisage de la faire évoluer? Voilà. Donc, je crois que j'ai résumé à peu près la chose.
Oui, merci. Merci, Luc. Moi, je suis vraiment très contente de cette présentation parce qu'en fait, elle permet vraiment de montrer l'articulation entre une demande et puis la réponse après, qui en est faite la reformulation. Parce que c'est vrai que là, on voit assez bien dans vos termes qu'en fait, bon, c'est vrai qu'il y a, il y avait un, il y a un triple objectif, c'est un festival de cinéma, il y a aussi la leçon de cinéma, c'est aussi un festival de films de fin d'études, voilà, donc il y a ces trois aspects-là, un aspect pédagogique, un aspect festival un peu, bon, qui a un côté scolaire, et puis aussi un festival de cinéma qui a un côté artistique, donc il y a ces trois dimensions-là. Et en même temps, dans un univers enfin, en mouvement, avec une nouvelle équipe, un changement d'organisation, des techniques en évolution, etc. Et puis vos interrogations au milieu, et comment le sociologue, lui, peut intervenir pour répondre et vous donner non pas des solutions, mais des éléments de réponse qui peuvent après amener à une stabilisation, ou voilà, trouver enfin une façon de stabiliser d'une certaine façon, par exemple, ne serait-ce que par le nom ou par la connaissance, tout simplement, de la structure du public qui vient. Hein, voilà. Donc, eh bien, je vais laisser la parole à Anne Cavaroc. Ah non, peut-être
est-ce que ça vous a... Oui,
pardon.
On a apporté la bande-annonce du festival qui va avoir lieu en décembre, qui n'est pas tout à fait finalisée. C'est un pré-montage de cette bande-annonce. Mais qui donne déjà une atmosphère qui est un peu plus mélancolique dans la sélection que l'année précédente. Voilà donc quelques images de la compétition qui va se dérouler, qui donnaient un petit peu une tonalité de la variété, de la différence, de l'animation, du film de fiction et documentaire, il y a des pays ex de l'Est, il y a des choses du Nord, Et donc on va affiner un petit peu cette bande. Et c'est elle qui sera après projetée devant chaque séance de compétition pendant le festival. Voilà.
Anne, est-ce que tu...
Comme tu veux. C'est peut-être mieux là. Devant cet ordinateur. Oh, aussi.
Celui-là ? Non, non, mais...
Tu veux me mettre là-bas.
Mais moi, je peux me mettre là-bas.
Non, c'est bon.
Oui, non, mais je fais...
Je vais présenter les résultats de cette enquête, mais alors résultats parcellaires, puisque le traitement des données n'est pas encore tout à fait fini. On est encore en phase d'écriture des rapports, et comme on est deux à faire les recherches, tout n'est pas... je ne vais pas répondre ici à toutes les questions qu'a posées le Festival Henri Langlois, seulement celles sur la composition du public, en fait. Et comme c'est la fête de la science aussi, je vais en profiter pour expliquer un peu ce que c'est comment fonctionne une enquête sociologique et ce que c'est un peu aussi la sociologie. Je vais me servir de cette enquête un peu comme exemple pour mettre en évidence des aspects de la sociologie qui sont souvent invisibles, hein, et d'ailleurs que Luc vous n'avez pas vu puisque vous nous avez vu faire l'enquête, mais pas tout le travail préparatoire. Donc voilà, je vais en profiter pour expliquer ça aussi. Donc, d'habitude, les sociologues, de toute façon, travaillent plus souvent à l'université. Donc, en tout cas, moi, ça a toujours été mon cas, même si je suis jeune sociologue, en usurpant un peu le terme. Donc là, c'était quand même un cas très particulier de travailler avec des professionnels. C'est un cas particulier et puis un cas un peu difficile parce que Pierre Bourdieu disait de la sociologie que sa grande malédiction... c'était d'avoir affaire à un objet qui parle. Donc l'objet, le festival, c'est un objet donc, qui est déjà porteur de sens, qui a beaucoup de mots sur lui, de conceptions, dont il faut se débarrasser en sociologie. Donc du coup, c'est toute la difficulté de récupérer cet objet, de se le réapproprier sans trop importer les prénotions, et donc se réapproprier notamment en changeant d'échelle, en renouvelant le regard, en créant une rupture, ce qu'on appelle une rupture épistémologique, pour permettre de renouveler le regard et ensuite le restituer au commanditaire, pour que ça serve ensuite au festival concrètement. Et donc toute cette étape de sociologisation de l'objet, de festival, donc le festival Henri Langlois et son public. Toute cette étape, on part de la commande. Je vais mettre l'écran, ce sera plus simple pour suivre. Voilà, donc les deux questions de la commande. Donc qui fréquente le festival, donc vraiment qui est le public, comment est-ce qu'on peut le caractériser ? Et comment est perçu le festival par son public. Donc, comment le public se représente le festival. Donc, ces deux questions, pour nous sociologues, c'est il faut faire une sociographie du public. On a une population, on va l'analyser et essayer de voir comment elle se représente donc cette manifestation. Et donc le premier élément de cette rupture, c'est-à-dire que c'est ça tout ce travail invisible avant d'aller sur le terrain, de mener une enquête, d'aller demander directement aux gens. Qu'est-ce que vous pensez du festival ? Qu'est-ce que vous pensez de tel élément du festival ? Il y a tout un tas d'étapes qui nous permettent déjà d'avoir, avant même d'assister au festival, puisque le festival de l'an dernier, c'est le premier auquel j'assistais, alors que ça fait 10 ans que je vis à Poitiers. Et même, pourtant, avant d'y aller, j'avais déjà une idée de ce que j'allais trouver, notamment grâce à ça. Donc, le premier geste de mise à distance, de changer un peu le regard... Ce geste du changement de regard, c'est j'ai fait un petit tableau pour essayer d'expliquer ça, de repasser le festival dans une espèce dans une chaîne d'acteurs, tous les acteurs qui gravitent autour. C'est-à-dire que le festival, donc du coup, il va mettre en jeu des producteurs d'œuvres. Donc j'ai indiqué réalisateurs, mais en fait, potentiellement, c'est toutes les personnes qui participent à la création d'un film, donc les acteurs, les costumiers, etc. Ensuite, le créateur, le producteur produit une œuvre, donc en l'occurrence les courts-métrages. Ensuite, il y a une étape qu'on oublie souvent, donc la médiation, c'est-à-dire que les conditions dans lesquelles l'œuvre est présentée, c'est-à-dire que il n'y a pas une œuvre pure et un spectateur en face. il y a toujours une étape intermédiaire. Donc, c'est-à-dire que bah, là, vous regardez ces petites feuilles sur un écran, géant et pas sur un ordinateur. Et déjà, ça change le rapport à un objet. Donc, le festival en lui-même est une médiation. Et après, le mode de diffusion, est-ce que vous allez récupérer le DVD des courts-métrages et le regarder chez vous, ou est-ce que vous allez les voir en salle? Ça aussi, bon, ça va jouer sur la représentation qu'on a de la manifestation. Et la dernière étape, évidemment, le public. Et donc, ça déjà, penser le festival au milieu de tous ces acteurs-là, c'est une autre façon de changer le regard, déjà en cassant cette image de bah, la création, enfin l'œuvre seule face au public, ou le créateur seul face au public, qu'on a assez souvent à l'esprit. D'autres façons de faire, c'est d'aller consulter les grandes enquêtes dont Venceslas a parlé tout à l'heure, l'enquête sur les pratiques culturelles des Français, qui est vraiment une mine. Il y a énormément de choses. Il y a des petites données comme ça qui nous donnent une idée de comment font les Français, nous donnent un cadre général, comment les Français vont au cinéma. Donc, on sait que 57% des Français, donc ça c'est la dernière enquête de 2008, 57% des Français sont allés au cinéma au moins une fois dans l'année. En 97, ils n'étaient que 50%, donc c'est quelque chose qui augmente. On sait que ceux qui vont le plus au cinéma, ce sont les plus jeunes, 15-25 ans, 15-24 ans, pardon. Mais 88% des 15-24 ans sont allés au moins une fois dans l'année au cinéma. Et après, ça baisse au fur et à mesure que le spectateur vieillit. C'est des données comme ça qui permettent déjà de recadrer ce qu'on va observer dans le festival, enfin durant le festival. Et ça permet aussi d'interroger d'autres idées reçues qu'on a. Par exemple, il y a l'idée que le cinéma comme forme d'art, ce serait la seule forme d'art partagée par tout le monde, en fait. Que tout le monde dans la société va au cinéma, etc. Ce qui, en fait, est une idée fausse, parce que même si c'est une industrie culturelle qui est très fréquentée par beaucoup de monde, malgré tout, on a des constantes qu'on retrouve pour toutes les autres formes d'art. C'est-à-dire que les classes populaires le fréquentent beaucoup moins et de moins en moins. C'est une baisse constante depuis les années 50. Pareil aussi, donc toujours la question, donc je disais, de la médiation. Le mode de diffusion, c'est-à-dire que le cinéma à la maison, sur DVD ou en salle obscure, ça sépare vraiment des publics différents. Donc ça, ce sont déjà ces premières étapes-là qui permettent de se donner, de poser une espèce de paysage à partir duquel, de poser une échelle, des repères à partir desquels on va pouvoir aller voir ce qui se passe dans le festival et pour mieux jauger. Surtout que le festival, c'est un cas particulier parce que déjà on est sur du court métrage et pas du long métrage, ce qu'on entend le plus souvent quand on parle de cinéma. Donc ça implique sûrement un public différent. Et le fait aussi que les rencontres Henri Langlois sont c'est pas seulement un festival culturel auquel on va pour se divertir, pour certains, donc les réalisateurs, les journalistes, c'est un rendez-vous professionnel. Comme on le verra, pour une partie du public, nous on l'a vu, on l'a constaté à travers les questionnaires, les entretiens, les observations, pas mal de gens y vont en tant que spectateurs, comme vous et moi, le pense comme un moment de formation dans une carrière dans le cinéma qui va venir. Donc là aussi, bon, on a une première idée avant même d'avoir mis les pieds là-bas. On a quelques idées sur qui va être ce public. Donc du coup, l'enquête proprement dite. On a fait donc Isabelle et moi, donc on a réalisé un questionnaire qu'on a passé pendant la durée du festival. Avant, on avait fait un questionnaire test durant les apérofilms, donc qui se déroulent de septembre à novembre, qui sont gratuits à trois lieux différents de Poitiers, des maisons de quartier.
Les apérofilms, en deux mots, c'est des petites formes qu'on a décidé d'installer avant le festival, aussi pour aller à la rencontre de gens dont on se dit dans les maisons de quartier, qui sont justement pas le, par le centre de Poitiers, de gens qui, pense-t-on, ne viennent pas au festival, n'ont pas cet automatisme de fréquenter le festival. Et donc, c'est une forme assez simple. Il y a 40 minutes de film, un verre et un grignotage pour parler du festival et de ce qu'on y propose. Et on renvoie 40 minutes de film ensuite. Voilà, c'est ce moment-là où l'équipe de l'étude est aussi allée à la rencontre du public.
Ça nous a offert aussi un autre point de comparaison qui sert beaucoup pour comparer le public du festival et des apérofilms, qui effectivement n'est pas du tout le... Enfin, pas du tout. Si, il y a des points communs, mais qui n'est pas le même quand même. D'ailleurs, c'est assez étrange parce qu'on a passé sur le festival entre 1200 et 1400 questionnaires, donc on a distribué aux gens. On en a récupéré 161, donc c'est vraiment très très peu. Et tandis que pour les apérofilms, sur 400 et quelques entrées, on avait récupéré plus de la moitié, 250 questionnaires. Donc, bon, quelque part, on a une meilleure vision des apérofilms que du festival. Mais ça aussi, ça donne des indices sur la composition du public. En plus donc des questionnaires, les outils habituels des sociologues, donc de l'observation. Ça permet de voir des manières de se rendre au festival différent, en groupe, en groupe ou non. Est-ce qu'il y a de la discussion? Est-ce qu'on discute du film? Ce qui fait partie aussi de cette étape de médiation, hein, qui continue à faire vivre l'œuvre. Donc bon, voilà, des observations et des entretiens qui ne sont pas exploités ici, avec des membres du public et des membres de l'organisation. Voilà. Donc du coup, sur les résultats proprement dit. Donc, je vais d'abord commencer par une espèce de portrait un peu à plat du public, hein, des tris à plat en fait. Notamment le. Voilà. Donc par l'âge, donc tout bêtement. Sur le festival, c'est tout comme l'enquête sur les pratiques culturelles des Français, il y a un public extrêmement jeune. Donc là, c'est augmenté par le fait qu'il y a beaucoup de scolaires. Mais malgré tout, les 20 à 25 ans sont largement majoritaires. Le reste de la population ne représente donc de 26 à plus de... Enfin, au maximum, ne représente que 33%. Donc bon, bah là, on dessine d'emblée un public jeune, ce que nous, à ONU, on n'avait pas constaté, parce qu'on voyait souvent revenir les mêmes personnes, qui étaient des personnes d'un certain âge. Donc, bon, du coup, l'enquête permettait d'apporter déjà cette première idée d'un public très jeune. Ensuite, on a un public qui est très féminin, enfin, majoritairement féminin, donc ce qui là aussi colle avec les données nationales, puisque les femmes sont plus nombreuses à aller au cinéma, même si elles y vont moins souvent que les hommes. Elles font moins de séances, mais elles sont plus nombreuses à y aller. Donc là, bon, c'est pareil, 58% des festivaliers sont des festivalières. Voilà. Un autre point donc, qui est très signifiant donc, aussi, c'est le diplôme, donc, qui là aussi partage beaucoup le public. Là, c'est pareil, comme pour la jeunesse, enfin, on retrouve des données qu'on a au niveau national, c'est une population majoritairement diplômée. Donc là, c'est lisible. Donc voilà, près de 80% de la population interrogée a le baccalauréat et plus. Donc après, là, il faut penser qu'en plus, non seulement la population est très diplômée, mais là aussi, il y a beaucoup de scolaires dans l'échantillon. Donc ça veut dire que ça tire vers le bas. C'est-à-dire que théoriquement, là, les personnes qui n'ont pas le bac, parce que les scolaires, donc c'est du collège-lycée, sont surreprésentées. Donc là aussi, bon, on va vers... On reproduit ce qu'on retrouve au niveau national, au niveau des comportements vis-à-vis du cinéma. Après, un autre élément, c'est l'activité. Donc là, on a une majorité d'inactifs, donc sans emploi ou étudiants. Donc ce qui après est logique, parce que le festival dure 10 jours dans la semaine. en journée. Donc, bon, c'est normal aussi que les gens qui sont là sont les gens qui peuvent venir, donc les gens qui ne travaillent pas. Donc, bon, mais ça donne une idée aussi. Après, on voit tout simplement... donc là aussi, les scolaires rentrent dans la catégorie étudiants, donc qui représentent la moitié. Mais on voit aussi l'effet de ben, on est à Poitiers, donc il y a 26 000 étudiants aussi. Donc qui alimente aussi ce public du festival. Donc, bon, là, on a des grandes catégories. On voit l'âge, le sexe, etc. Mais c'est bon, c'est la lecture à plat. Et donc, après... en sortant un peu du public, en s'intéressant un peu plus aux œuvres, on arrive à déterminer des choses un peu plus intéressantes. Donc en s'intéressant à la question des œuvres et de leur médiation, et notamment la question du genre de film. Parce que selon le genre de film qui est regardé, ça partage aussi fortement les publics. J'ai retrouvé ma page, mais parce qu'on a eu des questions où on demandait aux gens d'indiquer leur genre préféré et d'indiquer les trois films qu'ils avaient vus dans les six derniers mois, les trois derniers films qu'ils avaient vus dans les six derniers mois, qu'on a pu classer ensuite par genre. Et donc là, en fait... Alors qu'on avait jusqu'ici le portrait d'une population donc, très éduquée, donc jeune, qui pouvait dessiner quand même un début de portrait de cinéphile, là, on arrive avec... sur la question des œuvres, on a eu des réponses très étonnantes. Alors, c'est peut-être le poids des scolaires, hein, mais le film le plus déclaré, c'était Harry Potter 7, qui sortait à l'époque. On a essayé d'évaluer en fait les films donc, qui nous ont été donnés, la liste de films que les gens nous ont donnés, en mesurant par exemple le fait, est-ce que c'est des films qui avaient été récompensés au César, aux Oscars, à Cannes, c'est-à-dire de très grandes récompenses. Donc est-ce que c'est des films qui font partie des grands circuits de distribution ou pas? Et en fait, c'est le cas de 75% des films. Donc du coup là, d'un seul coup avec cette information, on s'éloigne de l'idée d'une population qui serait que cinéphile, en fait, d'un public qui serait uniquement cinéphile, très art et essai, etc. Ensuite, la question des genres, donc du coup, qui, comme je disais, divise fortement le public. On a ici, pareil, on a eu dans les réponses de genre des mélanges un peu surprenants, c'est-à-dire qu'on a eu... qui a indiqué plusieurs sous-publics, en tout cas. On a eu beaucoup de réponses films d'auteur. À côté de ça, on a eu beaucoup de réponses science-fiction et comédie. Donc, des choses, en fait... la comédie, par exemple, va être plus rattachée à une population des classes populaires. Film d'auteur va plus renvoyer à une population très diplômée. Donc là, on a, pareil, un éclatement dans les réponses où on voit des îlots... se fractionner, enfin vraiment se séparer. Un autre indicateur là-dessus aussi qui permet de déterminer un degré de cinéphilie du public, ça va être l'origine du film, selon si le film est français, américain ou d'une autre nationalité. Donc là c'est pareil sur la liste des films qui nous ont été donnés, on les a classés. Et donc là, contrairement à ce qu'on a au niveau national, on va avoir une majorité de films français qui sont déclarés par le public, qui sont vus. L'Amérique du Nord, donc, qui comprend aussi le Canada, mais ça comprend très peu de l'échantillon, qui vient juste après. Et après, des films qui sont en multinationaux. Donc voilà, là aussi, on n'a pas quelque chose de clair qui se dégage, mais on voit qu'on n'est pas non plus dans le schéma habituel où l'Amérique du Nord arrive à 57%, il me semble, d'habitude. Donc voilà, un autre élément, toujours pour déterminer un degré de cinéphilie du public, ça va être le choix de la langue. Est-ce qu'on regarde un film en VO, en VOST, ou en version originale sous-titrée ou en version française? Et là, voilà. Donc là, par contre, c'est assez clair. On a des comportements qui sont très cinéphiles, où la majorité regarde en VO ou VOST. Donc, voilà. Après, on a des... là, j'ai sélectionné vraiment des questions qui avaient des réponses un peu intéressantes. Par exemple, je parlais de la forme court-métrage tout à l'heure, parce que c'est une forme intéressante qui est assez complexe, parce que du coup, elle est... un court-métrage, c'est diffusé, ou ça va être diffusé éventuellement au cinéma avant d'aller voir un long-métrage, il va y avoir un petit court-métrage. À la télé, en deuxième partie de soirée, entre deux films. Et puis, on n'y pense pas souvent, il y a les YouTube, les Dailymotion, c'est très souvent du court-métrage aussi. Quoi que ce soit la vidéo qu'il y a, ça relève du court-métrage. Si on regarde la définition, qu'il y a une unité et que c'est en dessous d'une heure, ça dure moins d'une heure. Voilà. Mais alors, les questions sur le court-métrage, qui cherchent à savoir, est-ce que le public reconnaissait une forme spécifique du court-métrage? Est-ce que le public va... spécifiquement voir du court-métrage, etc., ben, n'a rien donné. Il n'y avait pas de reconnaissance d'un genre court-métrage. Donc, bon, enfin, bon, là, c'est, je disais, c'est pour passer sur le... pour dire, là, je passe sur les réponses qui ont eu le plus d'intérêt, mais bon, c'est la question du court-métrage, moi, qui me chiffonne, en fait, parce que je pensais trouver autre chose. Mais bon, bon c'est comme ça. Hein. Et donc, bon, tous ces éléments-là que je vous ai donné un peu en bazar, là... permettent quand même de définir quelques types de publics. Ça permet quand même d'identifier des sous-groupes un peu qui se recouvrent plus ou moins, pas toujours, et qui, mais c'est, qui surtout pour le donc pour le commanditaire, ça va être utile d'avoir cette connaissance-là dans le sens où ça ouvre la voie à une la possibilité de communiquer de manière différenciée selon le type de public. Quoi. On va avoir, par exemple, l'habitué. Donc là, on a mesuré la fidélité au festival. Et donc, ça va être plus 56% des gens interrogés en fait, étaient déjà venus au moins une fois au festival, sachant qu'on a quelqu'un qui nous avait répondu, qui était venu à l'époque, c'est à l'époque où c'était encore à Tours. Voilà, il n'y en avait qu'une seule personne, je pense. Mais c'est la très grande majorité des gens qui sont dans ce cas-là. Ils sont venus 2, 3, 4 fois, mais ça reste dans les 5 ans. Donc voilà, on a l'habitué qui, lui, a un profil particulier et un type de public. On a le professionnel que j'ai évoqué tout à l'heure, qui lui, donc, alors la manière dont notre questionnaire a été conçu, c'était difficile de le redécouper et de le cerner à travers nos questions, parce que c'était à la fois, il se mélange avec les scolaires, c'est aussi celui qui a le badge presse, donc qui passe comme il veut, donc c'était plus difficile à mesurer. Donc, mais il y a le professionnel qui est un type particulier de public, parce que ça, on l'a vu dans les entretiens. Il y avait vraiment des gens qui venaient, alors soit en stage, soit en tant que spectateur, mais qui se disaient, ça fait partie de ma formation et je veux bosser dans le cinéma après. Donc il y a ceux-là, il y a ceux qui bossent vraiment dans le cinéma, soit en tant que journaliste, soit en tant que réalisateur. Et donc, bon, voilà, c'est un autre type de public avec l'habitué. Et le troisième, donc, c'est le public captif, qui recouvre en partie le public professionnel. Et donc là, c'est les scolaires, dont vous avez parlé tout à l'heure. Et donc, qui lui aussi est un cas particulier, puisque les scolaires donc, sont beaucoup plus jeunes. Il y a aussi beaucoup plus. Ils sont beaucoup plus hétérogènes socialement si on consulte la profession des parents. Parce que là, donc, j'ai mis que les professions. Que le niveau de diplôme de la personne. Mais si on consulte les professions des parents, on voit que les milieux sociaux sont beaucoup plus mélangés chez les scolaires. Donc là, c'est un public encore à part, quoi, qui obéit à des règles différentes. Voilà. Et donc, bon, on a ces trois catégories de public qui, en plus, diffèrent donc beaucoup, ce que je disais au tout début, donc par rapport aux apérofilms. Où là, dans les apérofilms, on a des habitués, mais pas les mêmes. Ça va être quelques-uns qui sont habitués du festival, mais la plupart des habitués des apérofilms, ça va être des habitués des apérofilms, c'est-à-dire que des gens qui étaient déjà venus aux apérofilms et qui y retournent, mais qui ne sont pas forcément au festival. Donc là, on a deux publics voisins qui ne se croisent pas forcément. Et aussi, aux apérofilms, on a des origines sociales beaucoup plus hétérogènes. Donc là, en fait, l'intérêt de l'enquête, à ce stade aussi de l'enquête, c'est que vraiment, ça permet de cibler des publics qui, a priori, sont peu ou pas représentés dans le festival, mais qui sont présents, par exemple, dans les apérofilms. Donc, ça veut dire aussi que c'est un public potentiel pour le festival, donc qu'il est possible à capter. Mais après, évidemment, il y a d'autres éléments en jeu. Et comme là, ce sont des résultats partiels que je présente, il faudrait des entretiens pour aller voir plus loin les autres déterminants, notamment tout bêtement le prix, puisque un apérofilm est gratuit, le festival est payant, ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment un travail d'entretien qu'on n'a pas, qu'on a réalisé, mais qu'on n'a pas encore abouti. Donc voilà, je suis allée un peu vite, mais c'était pour vous donner un peu une vue générale et un peu de données sur le public du festival. Voilà.
D'accord. C'est bon ?
Oui,
d'accord. Très bien, merci beaucoup. Alors, donc j'aimerais bien savoir maintenant peut-être ce qu'il en a été de la réception de ces résultats, Luc. quel a été le ressenti au niveau de l'équipe et puis les questions, les interrogations que vous avez par rapport à ce public, etc.
C'est pas terminé. Parce que malheureusement, le festival est une espèce de montée en charge. Au moment où on a eu les premiers résultats, on était encore dans une période où on pouvait s'autoriser à quelques moments de réflexion, d'analyse de ce qui venait de nous être dit, etc. Et puis très très vite, on a été happé par l'obligation de se consacrer à plus que plein temps à l'organisation du festival. Donc on n'a pas, je dirais, terminé cette réflexion, mais il y a déjà une chose qui nous est apparue très clairement, c'est que et c'est peut-être assez normal. Alors, je ne sais pas bien si tous vos chiffres par rapport à ce que dit le CNC sur la fréquentation sont tout à fait justes encore, parce que je vois quand même la fréquentation exponentielle depuis 3-4 ans des multiplexes, qui sont tous implantés plutôt en périphérie des villes, dans des banlieues, etc. Donc, qui drainent tout un public extrêmement populaire, qui vient en voiture, qui a des parkings gratuits dans les multiplexes pour se garer, etc. Je pense que tous ces gens-là doivent faire remonter le pourcentage de milieux populaires qui vont au cinéma par rapport à ceux qui sont hyper diplômés. Donc, je ne sais pas si l'équilibre est encore tout à fait celui-là. Mais nous, qui nous a effectivement interpellé beaucoup, parce qu'on s'en doutait, mais pas à ce point-là, c'est qu'il y ait 78% de titulaires du baccalauréat. Ça veut dire que tout ce qu'on fait depuis 5-6 ans pour ouvrir le festival à d'autres gens qui n'auraient pas ces automatismes de la culture, de venir découvrir des œuvres, des auteurs, etc., d'essayer de, par d'un certain nombre d'astuces programmatiques et par un certain nombre d'événements, et notamment par exemple les apérofilms qu'on fait en amont, etc., d'essayer de donner envie à d'autres gens. Alors peut-être que le fait que ça se passe dans la scène nationale, dans le TAP, dans le temple de la culture pictave, fait qu'il y a cette résistance, parce que c'est des lieux dont beaucoup de gens disent c'est pas pour nous. Mais on est vraiment interpellé, parce qu'il y a il y a une nécessité pour nous de faire baisser. Non pas qu'on veut bien tous continuer à les accueillir, hein, les 78% de bacheliers, mais de faire baisser le pourcentage et d'accroître effectivement notre audience en direction de gens qui ne feront pas le travail eux-mêmes de se déplacer. Donc il faut qu'on aille les chercher par des propositions. On pensait que le court-métrage, puisque 97% des films de fin d'études sont des courts-métrages. Les écoles ont rarement les moyens de produire des longs. Quelques écoles scandinaves, allemandes, ou encore dans les documentaires, il y en a plus souvent des longs, mais la majorité, c'est des courts. On se disait que le format court était quelque chose qui pouvait... qui pouvait attirer d'autres gens, d'abord parce que c'est un format différent qu'on n'a pas l'habitude d'aller voir au cinéma, et on sait très bien qu'on peut sortir après le premier film qui dure 12 minutes si ça ne nous plaît pas. Donc on se disait ça va peut-être être plus facile. On est obligé de constater qu'on n'a pas trouvé tout à fait le moyen d'y arriver. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'effectivement, ça va avec le degré de cinéphilie que la majorité, le plus important des journaux de cinéma lus, soit les cahiers du cinéma, ils ne sont pas nombreux, les lecteurs du cahier du cinéma, pourtant, non, on a le gratin, le lecteur du cahier. Et c'est vrai que ça nous pose la question de savoir si c'était la deuxième chose. Par rapport à tout ce qu'on voit aujourd'hui, vous avez parlé de YouTube, vous avez parlé de toutes ces plateformes sur lesquelles on peut visionner du cours, dans quelle mesure est-ce qu'il ne faut pas que, si on n'arrive pas à attirer davantage au festival ce public-là, qu'on lui propose des manières alternatives de voir les films que l'on découvre? Parce que moi, je crois beaucoup à ces brassages de culture, à cette ouverture en direction des publics, de leur faire découvrir ce qui se passe dans la réalité culturelle, économique, sociale, aujourd'hui, en Argentine, au Portugal, en Bosnie ou ailleurs. Ça passe tellement facilement par le cinéma qu'il faut peut-être arriver à proposer la programmation qu'on fait pendant 8 jours dans le TAP cinéma, de la proposer autrement, de la proposer ailleurs, sur des supports différents, dans d'autres, soit physiquement dans d'autres lieux, et que ce soit de la même programmation, soit sur des supports DVD, soit sur une plateforme sur laquelle on peut accéder par Internet, j'en sais rien, mais on se dit... On a raté forcément quelque chose quand on entend les résultats de ça. C'est qu'on a normalement le cours qui est un truc qui doit convenir à un public qui a peur de s'embêter. S'il voit un film trop long, un peu, et qu'il pense que c'est un télo, que c'est tout ça. Et pour autant, on n'arrive pas à le capter. Voilà, ça, c'était les deux premières réflexions qu'on a eues au résultat de votre enquête.
Non, je pensais au problème du court, en fait, du court-métrage, qui n'est pas en fait un problème de longueur, en fait. Parce que malgré tout, il faut penser aussi en termes de contenu. Je ne pense pas que le fait d'être court suffise à attirer des publics plus hétérogènes socialement parlant. Parce que les contenus vont être quand même produits par des étudiants d'écoles de cinéma, donc j'imagine qu'ils ont des thèmes aussi en termes de genre, quoi. Ça va être. On a bien vu de toute manière quand on regarde les genres de films qui sont diffusés au Festival Henri Langlois, c'est vrai qu'aussi la comédie est un peu plus rare, par exemple, qui est plutôt un genre qui est regardé par les classes populaires. Voilà. Donc il y a des choses comme ça. Il n'y a pas que le fait que ce soit court, en fait. C'est un argument qui n'est pas suffisant, en fait, mais il y a aussi des histoires de contenu qui jouent, je pense. Et après, effectivement, le lieu, comme vous l'avez mentionné, parce que c'est vrai que le TAP en impose un peu un jeune.
Et c'est vrai aussi qu'on n'avait pas, nous, l'impression que alors c'est vrai que c'est faux, cette perception est certainement faussée par le fait qu'il y ait une grande partie de scolaires dans la majorité, dans le public, qui viennent de façon contrainte, je dirais, en tout cas captive, à des séances spécifiques particulières qui sont pour certaines l'après-midi, pour les lycées, les mêmes que les séances de compétition, mais par exemple pour les petits scolaires qui sont plutôt le matin, organisés en matinée. Donc ça se voit moins parce qu'il n'y a pas de fréquentation publique pendant ce temps-là. Ouais. Donc c'est vrai, quand on est dans la salle, on a plus l'impression d'un public plus adulte et beaucoup moins jeune que ce que vous avez trouvé, quoi.
Ouais. Ouais. Mais le poids des scolaires est important, ça représente un tiers.
Ouais. C'est vrai qu'on fait un travail très important parce qu'on s'est toujours dit, que de toute façon, il y a un peu dans notre mission, pour prendre un grand mot, mais un travail de formation des regards. Qui doit venir compléter les dispositifs qui existent, école, collège, lycée, au cinéma, où effectivement les gamins voient 3 films par an avec un cahier pédagogique et qui peut être travaillé, mais où il y a tout d'un coup l'opportunité de leur montrer très souvent du cinéma qu'ils ne verraient pas en salle, même s'ils y allaient, parce qu'on est vraiment là dans la création pure de gens qui sont assez proches d'eux du point de vue de l'état d'esprit, de la maturité, etc. Ils ne sont pas beaucoup plus vieux. Et qu'effectivement, on ne parle pas de la même manière quand on est tchèque, quand on est d'Asie du Sud-Est ou bien quand on est d'Amérique du Nord. Donc ça nous paraissait être une ouverture possible de dire au professeur, on vous compose un programme qui est très visible, c'est pas un truc très particulièrement compliqué où effectivement vos gamins vont s'embêter très vite, mais c'est une ouverture à des cultures différentes, à des formes cinématographiques différentes, de façon peut-être à en habituer certains à avoir envie de continuer à en voir, à avoir envie d'aller au cinéma, à avoir envie de découvrir ça, quoi. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on y consacre. Moi, il y a un salarié qui travaille quasiment à un mi-temps de l'année à faire un travail en direction des scolaires, des écoles, etc. Et qui provoque à chaque fois des rencontres au moment du festival entre les jeunes réalisateurs et les élèves, quoi. Voilà.
Non, mais la formation du regard est importante, c'est certain, mais c'est vrai que ces variables, on a des variables qui sont extrêmement lourdes, quoi, qui pèsent énormément. Donc l'origine sociale, on sait que ça pèse malgré des dispositifs comme ça. Du coup, il faudrait trouver d'autres moyens. Mais là j'ai pas d'idée, hein, mais pour renforcer peut-être l'efficacité de ces dispositifs-là. Parce que c'est des forces sociales qui sont violentes, qui sont difficiles à contrebalancer.
Puis on ne peut pas lutter contre le marketing d'Harry Potter, hein, de toute façon, il ne faut pas arriver. Hein.
Oui, puis c'est vrai que, je ne sais pas si on dit un mot sur, par exemple, un vieux texte, mais un des textes fondateurs aussi de la sociologie de l'art, qui est L'amour de l'art de Pierre Bourdieu. Dans L'amour de l'art, il dit bien, Pierre Bourdieu, à un moment donné, il parle justement de ces dispositifs en montrant comment ça est problématique, et puis en même temps en disant comment il faudrait agir au niveau de l'école, bien avant ça, c'est-à-dire agir en amont, c'est-à-dire pour qu'il y ait, comme il y a des cours de français et des cours de maths, qu'il y ait des cours d'art, des cours sur l'histoire de l'art, et là, des cours sur l'histoire du cinéma, etc., comme en fait ça se passe dans la socialisation toute simple des enfants qui naissent dans des familles aux niveaux sociaux les plus, où on rencontre les personnes les plus diplômées en vérité, et qui ont là une socialisation qui se fait tout simplement avec où est-ce qu'on les emmène au cinéma, où est-ce qu'on les emmène le samedi, le dimanche, etc. Et bien tout simplement ils se familiarisent avec ces œuvres, ces grandes œuvres entre guillemets de la culture, et en fait voilà, et c'est contre cette énorme puissance là qu'il faudrait que vous luttiez, ce qui est très 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 difficile, voilà. Hein, et toute une mise en œuvre du social qui est cette culture là c'est la culture légitime, c'est une culture qui est aussi d'une certaine façon une propriété à laquelle aussi on peut imaginer que certains tiennent, hein, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a tout un processus social. Alors c'est vrai que si on considère Le Monde avec Pierre Bourdieu ou avec d'autres sociologues, on le verra pas de la même façon, mais c'est vrai que Le Monde selon Pierre Bourdieu par exemple, ce sera un monde où effectivement cette culture est aussi un territoire qui est défendu. Hein. Bon, si on voit Le Monde social avec d'autres yeux, d'autres sociologues, ce territoire deviendra un territoire où les choses sont moins conflictuelles, moins problématiques, moins un enjeu de lutte. Hein, mais voilà. Bon. Mais ceci dit, aucun sociologue ne reviendra sur l'idée qu'effectivement cette culture, enfin ce rapport à la culture, c'est un rapport qui est donnée très très tôt dans la vie sociale. Et on dirait que l'école, effectivement, est un lieu où les choses peuvent peuvent trouver une des forces de qui viennent contrebalancer ça, hein. C'est ce qu'on voit par exemple avec le français, voilà, hein. Mais en même temps et d'ailleurs les acteurs eux-mêmes des mondes de l'art, si on parle avec cette fois-ci le vocabulaire de Ward Baker, les acteurs eux-mêmes font de la résistance par rapport à, même à la diffusion. Je parle de ça par rapport à, par exemple aux arts plastiques, l'idée de faire des cours d'histoire de l'art très précocement dans l'éducation des élèves est une idée qui est critiquée par des acteurs des mondes de l'art eux-mêmes en disant que ça ne s'apprend pas, etc. Hein, ouais. Donc, là, on touche à des questions de sociologie très importantes en sociologie de l'art, qui sont la question de l'idéologie du don, l'idéologie de ça ne s'apprend pas, etc. Bon, voilà. Et là, on touche à des choses qui sont des mécanismes sociaux vraiment très puissants. Hein, voilà. Mais je voulais juste dire ça. mais oui. Alors, est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Non. Ouais, alors que ça s'apprend, oui. Mais voilà. Mais
oui. Alors que ça s'apprend. Alors, il est déjà 4h-5. Et donc, je vais laisser la parole au public. Quelle est la première question? Ça soit sur l'intervention de Anne Cavaroc ou à Luc Angélibert sur,
des remarques, des suggestions.
Voilà, des choses qui n'auraient pas été...
Ça m'a paru extrêmement léger en fait comparé au nombre de jours et au nombre de séances qu'il peut y avoir dans une journée au festival.
Alors,
et est-ce que ça représente ça plus, plus l'après-midi, plus le soir, plus le matin? Une réponse un peu en fonction de la journée aussi, de la population qui peut venir à ces séances.
Alors, je sais qu'avec Isabelle et toi, on a fait en sorte, on avait pioché vraiment donc, tous les types de séances, matin et après-midi et soir, selon les jours aussi, on a fait gaffe le mercredi, etc. Et en fait, le nombre de séances qu'on est allé voir, ça concernait plus de 3000 entrées, en fait, donc sur les à peu près 10-11 minutes du festival, donc un tiers. Mais on a eu, pourtant, on a distribué 1200. 1200 à 1400 questionnaires. Tout le monde, enfin, on n'a pas eu de refus, très peu de refus. Les gens le prenaient, mais alors ils ne le rendaient pas. Ou alors après, il y a aussi des erreurs qu'on a faites au niveau de la conception du questionnaire. On a fait un questionnaire très long, ce qui n'était pas pratique.
Un peu trop long, mais pas très long.
Bah, surtout au TAP Cinéma, il faisait super froid, il n'y avait pas d'endroit où le remplir. Enfin, il y a des choses comme ça qui faisaient que...
Non, il y avait des difficultés. Moi, je dirais un mot après là-dessus. C'est vrai que tu n'as pas beaucoup parlé de la fabrique, de la cuisine, là, toute la cuisine qui est autour, qui était un peu compliquée. Parce qu'en fait, dans la méthodologie quantitative en sociologie, ben, c'est vrai que ce serait mieux que ce soit Venceslas qui parle de ça, parce que c'est lui le spécialiste. Mais tant pis, c'est moi qui ai le micro. Bon, je vais en profiter. Bon, tu m'arrêtes si je dis trop de bêtises. Donc, du coup, les techniques quantitatives ont une... dans la cuisine, on fait d'abord des entretiens exploratoires pour déterminer quelles vont être les grandes dimensions du questionnaire. Ensuite, on fait un questionnaire. On le fait passer en conditions réelles, normalement, le plus réel possible. Et là, dans le cadre d'un festival, c'est très compliqué parce qu'en fait, le festival dure, si je me souviens bien, il durait 10 jours. Et en fait, il aurait fallu le tester le premier jour, vite, pendant la nuit, le refaire en fonction des questions qui ne fonctionnaient pas. Voilà, parce qu'en fait, quand on est dans les conditions réelles, on s'aperçoit que tout d'un coup, par exemple, eh bien, il fait très froid dans le hall et qu'on ne peut pas le faire, que les gens s'en vont, eh bien, alors qu'on aurait mieux fait de le faire passer à tel moment, parce qu'en fait, là, par contre, il y a un hall d'entrée où les gens peuvent s'asseoir, etc. Ou bien alors, on s'aperçoit que telle ou telle question ne fonctionne absolument pas, on ne s'y attendait pas. Voilà. Et en fait, donc ça faisait partie des difficultés techniques qui étaient quand même très importantes pour vous. et auxquels vous avez été confrontés. Alors c'est vrai qu'en fait, il y a même eu une deuxième mouture du questionnaire en une nuit. Effectivement, il y a eu ça quand même. Voilà. Donc c'est vrai que pour ça, tu n'en as pas beaucoup parlé. Je crois que c'était important de les difficultés que vous avez eues quand même. Moi, je trouve que c'était.
Bon. Voilà.
Allez-y. Et donc je le regrette maintenant personnellement, je ne vois là qu'un an après. Bon, si moi je suis passée à côté, alors j'ai l'habitude de venir régulièrement voir les films, mais les autres, encore plus sont passés à côté. Le pire, c'est que j'étais avec une autre personne qui l'a rempli, et je ne sais pas ce qu'on a fait, et il est reparti avec.
Voilà, non, mais ça c'est des problèmes. Voilà.
Mais oui. Ouais.
Ouais, et puis il y avait aussi tout bêtement des questions. On a été un peu naïve, on s'est dit on va demander aux gens de nous donner les revenus de leur foyer, et ils vont le mettre. Et en fait, je pense que c'est des questions auxquelles quasiment personne n'a répondu. Et il y a peut-être on a eu des remarques de pour qui vous vous prenez à poser ces questions-là en fait. De ce genre-là. Donc, je pense qu'il y a des gens aussi qui ont dû refuser, qui ont dû peut-être commencer, arriver là, et puis dire oh, non, alors. Parce que c'est vrai que c'est des questions un peu.
Surtout, on n'a pas compris quoi servirait cette enquête. C'est là encore plus où ça bloque.
Oui, mais c'était indiqué en entête, pourtant que c'était une enquête, mais ouais. Mais du coup, après, c'était peut-être pas assez évident, ouais. Mais c'est vrai qu'on l'a, on l'a testé sur le tas, quoi. Il y a eu très peu de retours, quoi.
Mais là, personnellement, là, je ne sais pas, vous l'avez tous vu, ce questionnaire ? Vous voyez, donc, déjà, là, si vous le relisez, comment vont-ils... Là, si vous nous le lisez, si ça se trouve, on en a là pour 10-15 minutes,
quoi. Le temps de remplissage.
Alors, imaginez quelqu'un qui va au cinéma.
Oui, non, c'était un problème, mais en même temps, il fallait qu'on ait le plus d'infos possible. Et c'est pour ça que là... Voilà, il y a certaines questions qui n'ont pas fonctionné parce qu'on n'a pas pu recueillir suffisamment de réponses, quoi. Notamment les revenus, par exemple, typiquement. Où c'est vrai que la profession des parents, sur certains, il y avait, c'est la profession du père qui disparaissait, ou enfin il y en a une des deux, c'était la dernière qui était jamais remplie parce que, je pense que la personne arrivait à la fin et puis et avait pas le temps parce qu'elle sortait du cinéma ou il y avait une autre séance qui commençait. Enfin, il y a plein de raisons, quoi, mais c'est des erreurs avec lesquelles ou des contraintes avec lesquelles on va apprendre à composer pour une autre fois, quoi.
Moi, j'ai été étonné dans vos réponses de 30% de gens qui sont en emploi. Alors, c'est que je me dis qu'il y a peut-être vraisemblablement dans le choix aléatoire que vous avez fait de prendre des séances du matin, des séances d'après-midi, des séances du soir. Peut-être quand même une sous-représentation des séances de week-end et du soir, où effectivement, je comprends qu'il n'y ait pas de gens qui ont des emplois qui peuvent venir un jeudi après-midi au cinéma. Ça me paraît assez fréquent de ne pas pouvoir en semaine. Mais il y a quand même... moi, je note une différence quand je les regarde rentrer dans la salle, une différence entre les gens du soir... Et les gens de l'après-midi, il y a beaucoup plus de gens, d'étudiants ou de gens âgés l'après-midi, beaucoup plus de gens qui sont a priori en emploi en soirée. La proportion paraissait.
C'est vrai qu'elle paraît.
C'est faible de gens en emploi, quoi.
Mais pourtant, on a fait les soirs. Enfin, là, j'ai la liste, mais j'ai pas l'emploi du temps pour vérifier, mais on a fait l'ouverture. La leçon de cinéma Nicolas Saada qui était un soir, et il y avait eu un autre soir qui était un soir un peu plus, avec pas une soirée spéciale en fait. Mais après c'est pas, c'est quand même c'est un loisir qui prend du temps aussi, quoi. Donc ça ne m'étonne pas tant que ça, un tiers non plus, c'est pas, c'est un peu bas, mais c'est pas non plus trop aberrant. Enfin, je sais pas, je me rends pas trop compte, mais j'ai l'impression que ça... Surtout si on admet qu'il y a vraiment un poids des scolaires après qui déforme un peu les données.
Bah, c'est cela.
Sur les enquêtes sur les publics, parce que j'en ai fait aussi, je sais aussi comment ça se passe, par exemple, dans des institutions comme la Cité de la Musique, à Paris et la Villette, ils font des enquêtes, alors, ils ont carrément eux sur le bureau d'études, des enquêtes sur la publique. Et les questionnaires de cette longueur-là, en fait, un auto-administré, ils le font. Alors peut-être un peu moins long, mais pas non plus, ça ne peut pas durer moins de 5 minutes en tout cas. Mais le problème de l'auto-administré, c'est un mode de passation qui peut s'opposer à un autre, qui serait un mode de passation en face à face. Contrairement à ce qui s'est passé là, on aurait dû une personne qui s'est venue voir, enquêteur, qui aurait posé des questions. Mmh. Voilà. Et le problème de l'auto-administré, c'est un peu tout ce qu'on évoque ici, c'est les questionnaires mal remplis, c'est
pas rendu.
Un nombre de retour qui est fait par rapport au nombre de questionnaires que même les gens peuvent accepter de prendre, avec des choses du type « Ah ben, j'ai rempli, mais j'ai oublié de le laisser. » Voilà, voilà. C'est des choses. Et c'est un peu le problème de ce mode d'administration des questionnaires, en tout cas, la personne répond à lui-même au questionnaire, on lui donne la réponse, elle est censée poser quelque part. Et là, voilà, seulement pour faire du face-à-face, du questionnaire en face-à-face, il faut des moyens, il faut embaucher en général des questionnaires, des gens qui vont faire passer les questionnaires. Et voilà, il n'y a pas toujours les moyens de faire ça. Mais voilà, donc ça c'est. Mais après, sur la longueur des questionnaires, c'est vrai qu'il y a. Évidemment, il faut toujours trouver le bon équilibre entre. Il ne faut pas qu'il soit trop long, mais à la fois, il faut qu'on ait quelque chose d'intéressant à analyser, parce que sinon. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être sur 160. Alors après, une autre chose, moi, je m'étais rendu compte quand j'ai fait des enquêtes sur les publics, et notamment les enquêtes de public sur les festivals, c'est que quand on a le chiffre final du nombre du questionnaire, on dit « Ah bon, si peu », parce qu'en fait, à côté, on a le nombre d'entrées. Or, sur les festivals type Henri Langlois, Rencontre avec Langlois et d'autres, moi, je vais travailler sur les festivals de jazz, on a un public de... là de connaisseurs, jazzophiles, etc., qui est assez important et qui fait pas forcément tout le festival, mais qui fait qui revient, qui fait beaucoup de soirées, beaucoup de séances. Et du coup, si on regarde le nombre d'entrées et qu'après on regarde le nombre de questionnaires, on se dit pas grand chose. Mais en fait, on a un public qui est là, fidèle, et qui reste, qui fait pas toute la semaine, ou pas, enfin, qui vient quand même beaucoup. Coup de nombre d'entrées, parfois une personne concentre sur elle-même 10 entrées, quoi. Par exemple, c'est ça qui rentre en jeu. Enfin bon, c'est pas pour dire.
Oui.
En fait, soit il y a effectivement des choses, le nombre de questionnaires est assez bas, c'est vrai.
Oui, c'est-à-dire que moi j'évalue à 3000 personnes différentes les gens qui viennent au festival.
Sur
10 11 000 entrées.
Ça fait 5% alors, ouais. Ouais, c'est bas. Voilà.
Je me trompe peut-être, mais j'adorerais que ce soit 10 000 personnes différentes. Mais, mais je sais que ce n'est pas vrai. Je sais qu'on a une moyenne de gens qui viennent au moins 2-3 fois. Il y en a qui viennent 5-6 fois. Ils passent 5-6 soirées. Il y en a d'autres qui viennent une fois ou deux, etc. Mais, donc une moyenne de... Voilà.
Ça, c'est
3000, 3005, c'est le maximum. Quoi.
Ouais. Difficile à évaluer, en fait.
Oui, c'est très difficile à évaluer.
Une personne différente fréquente le festival.
Excusez-moi, petite question indiscrète, il y a quand même des écoles de cinéma à Poitiers, où sont-ils aujourd'hui ?
Pas là.
Oui, non, mais je pose la question parce qu'on a toujours un problème de communication pour tout et n'importe quoi à Poitiers. Là, je suis inquiète. Parce que vous avez fait vraiment une conférence remarquable. Et quel dommage qu'ils n'en aient pas profité. Je pose la question, vous a ça été
Il y a le programme. Alors, il y a eu un problème, par contre, de changement entre deux programmes. Bon, il y a le programme du parcours des sciences sur lequel nous sommes, aucun problème, normalement. Bon, voilà, je pense que les étudiants d'école de cinéma n'ont pas été peuvent pas consulter ce programme. Par ailleurs, il y a eu un autre programme. Il y avait le programme de l'Espace Mendès France sur lequel était restée l'ancienne date qui était demain.
Oui, mais ça, ils pouvaient
c'est autre chose.
Hein, ça, voilà. C'est une fausse excuse. Mais en plus, leur programme est sorti assez tard.
Oui, voilà.
Le programme du parcours
des... Il est sorti encore plus tard. Très tard. Voilà. Donc ça, c'est évident qu'il y a eu un gros problème.
Je trouve ça dommage parce que vous êtes passionnant. Donc,
merci. Moi, je dirais que pour bien faire, alors, ce qui serait bien, c'est de considérer que cette enquête était la pré-enquête, en faire une la fois prochaine, ou si c'est un appel, voilà. Et je dirais en plus que, bon, il y a certaines questions auxquelles, de toute façon, le questionnaire va avoir du mal à répondre, c'est les opinions, les représentations, et ça, c'est les entretiens. C'est l'enquête par entretien et l'enquête par observation qui va pouvoir donner des réponses, voilà, et celle-là, elle est en cours. Mais c'est vrai que c'était sans malice. Hein. C'est vrai que là, c'est vrai que ça a été fait dans les conditions mêmes et on voit tous les défauts, voilà, mais bon, qu'on ne pouvait pas imaginer. En fait. Il y a vraiment des choses qui sont très difficiles à imaginer tant qu'on n'a pas fait passer, quand on n'a pas encore fait passer le questionnaire en vérité. Surtout qu'en fait, un questionnaire auto-administré comme celui-là doit vraiment être parfait sur tous les points. Il doit vraiment être le plus parfait possible pour que la personne... Parce que si vous voulez, quand on est en face à face, en train de faire passer un questionnaire à quelqu'un, on peut toujours, non pas reformuler les questions, il faut mieux ne pas trop le faire, mais par contre, expliquer à la personne quand elle pose des questions, etc., ou qu'elle hésite. Bon. Alors que là, c'est vrai que la personne peut rapidement abandonner en se disant il est mal présenté. C'est assez difficile hein, de faire un questionnaire comme celui-là, sans avoir en plus le recul que vous avez maintenant. Voilà. Donc ça, c'est évident que s'il était refait, il serait refait dans des conditions différentes, c'est sûr. Ouais, il serait beaucoup mieux. Ça, c'était un peu inévitable, en fait.
Et j'ai regardé, ouais. Là, pour les gens qui regardent en version originale, il y en a tant que ça qui regardent en version originale, non sans
ce qu'ils préfèrent.
C'est ce qu'ils préfèrent,
je pense. Et qu'ils peuvent
vraiment les regarder. Quand vous en avez le choix.
Voilà, c'est ça.
Est-ce qu'il y en a tant que ça qui veulent vraiment voir en VO?
Ben...
Bah, 19,5.
Les anglophones pour les films anglais.
Oui, voilà, hein, c'est pas... Ça fait que 34 personnes. Hein,
oui,
qui, ouais, hein,
pour oui, des 114,
quoi, gens qui parlent une autre langue. Et puis voilà. Après, il faut penser tout bêtement aussi dans notre échantillon. Il y a les réalisateurs. Il y avait des gens invités. Donc il y avait pas mal de gens qui ne sont pas français aussi. Donc du coup, je sais
oui,
pas.
Oui, hein, chacun pensait à la VO dans ma langue. Pas toutes les VO.
Mais au moins des gens qui parlaient anglais. Donc c'était forcément des gens bilingues. Enfin, je sais pas, je me dis... Je sais pas, moi ça me.
En tout cas, nous, ce qui est clair, c'est que on considère qu'on doit à notre public de sous-titrer les films en français. Hein, donc voilà. Donc il y a quelques séances de marché ou des séances de découverte où on montre des films de présélection et on les laisse à partir du moment où ils parlent anglais ou ils sont au moins sous-titrés anglais. Mais ça, on annonce ça clairement. Mais c'est jamais ni les films du Focus, ni les films de la compétition, ni les films, les films qui ont vocation et qu'on a choisi, on fait l'effort de les sous-titrer anglais. Parce que je pense quand même que c'est ça. 17 en VF. Personne, enfin, ils voient les films en français en VF, ça c'est clair. Mais sinon, il n'y a pas de. Je veux dire que c'est rare par rapport à un public qui est tel que vous l'indiquez, avec un tel degré de cinéphilie, etc., qui soit adepte de la version française pour un film étranger. Parce que c'est vrai que la musique de la langue donne aussi la tonalité, l'ambiance de du pays, de la culture dans laquelle se passe ce film. Donc, rares quand même sont les spectateurs qui sont à la fois friandes, enfin, qui sont capables de s'ouvrir à ces autres cultures et en même temps qui demandent que cette autre culture leur soit délivrée en français.
Voilà. Après, il faut voir les motifs parce que moi, je me suis rendu compte que cette question-là de la VO et de la VF, elle m'est venue quand on faisait le questionnaire parce que j'ai un ami à moi qui regarde beaucoup vu son profil, c'est un cinéphile, on s'attendra à ce qu'il regarde en VO. Il me dit en VO sous-titré, et en fait il peut pas lire et regarder l'image, en fait ça lui gâche le plaisir du film, en fait, de lire.
Donc je me suis dit, ah bah oui, il y a peut-être aussi des effets comme ça. Mais là, typiquement, bah, c'est des questions qu'il faudrait aller vérifier en entretien, en fait, c'est ça. C'est juste, on voit qu'il y a quelque chose, c'est vrai, ah bah, autant de gens qui préfèrent la VF, ça paraît étrange, vu qu'on a une majorité de cinéphiles, mais il faut voir en entretien, donc, pour savoir ce qu'il en est. Quoi.
Mais quand même, il y a une grosse évolution maintenant, les gens ont appris à voir en version en VO.
Ouais.
Par rapport à il y a 10 ans, où ça refusait d'avoir
un En même temps, même sur Arte, Arte a fait disparaître son film du dimanche soir qui était sous-titré. Avant, c'était sous-titré, et puis ça arrivait quand, il y a 5 ans, ou un truc comme ça. Et le film est repassé en doublé. Donc, à la fois, oui, il y a eu une accoutumance, une habituation. Mais voilà.
Oui, sur l'ordinateur, il y a toutes les séries qu'on peut regarder en anglais ou en streaming. Là, c'est de l'anglais. Et donc, il regarde, quoi. Donc, il s'habitue à ça.
Moi, j'ajouterais quelque chose par rapport aux réponses. C'est qu'il y a toujours, dans les enquêtes en sociologie de la culture en général, il y a toujours une imposition, il y a toujours une difficulté à appréhender ce que les gens font vraiment, la différence entre ce que les gens font vraiment et leurs déclarations. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir du mal à faire dire à un professeur d'université qu'il préfère les films en VF, par exemple, sachant que forcément, c'est normalement, étant donné son statut social, la réponse la plus adéquate, c'est qu'il préfère les films en VO ou en version originale sous-titrée. Voilà. Donc c'est vrai que après, c'est pour ça aussi que les entretiens sont importants, c'est pour ça aussi que les enquêtes avec d'autres sources sont importantes. C'est vrai que le questionnaire enregistre des déclarations, mais n'enregistre pas des faits, des pratiques. Voilà. Donc ça, c'est aussi un problème de la sociologie. Alors on est obligé de croiser les faisceaux, de travailler avec des différentes sources pour nous permettre justement, par exemple avec des entretiens approfondis, on peut très bien arriver finalement à appréhender des pratiques que les gens ne déclareront pas comme ça d'emblée. Et encore que ce soit quand même assez difficile. Alors après, on peut vérifier certaines choses. Alors par exemple, dans les déclarations, quel est le combien de films allez-vous voir par mois? Les gens, il y a des astuces comme ça, on peut dans le questionnaire dire, bon alors voilà, combien de films allez-vous voir par an, par exemple? Alors là, à quelle fréquence allez-vous au cinéma? Alors par exemple, une fois par mois, une fois par semaine, etc. Bon, par exemple, si je reprends le professeur d'université qui va déclarer, j'y vais une fois par semaine, bon, on va lui demander quels sont les 4 derniers films vus. Bon, voilà. Donc là, si vraiment il n'y est pas allé une fois par semaine, il va avoir du mal à dire quels sont les derniers films vus. Donc ça, c'est une façon qu'on a de vérifier qu'en fait, ils sont vraiment allés si souvent que ça au théâtre, au cinéma, au spectacle vivant, etc., qu'ils le disent. Voilà, ça sont des petites astuces qui permettent aux sociologues de contrecarrer ce dont je parlais tout à l'heure, cette puissance du social qui fait que on ne peut pas se permettre de déclarer telle ou telle pratique parce que ça ne se fait pas. Parce qu'on sait que sinon on va être mal jugé en fonction de ça. Puisqu'on sait que c'est un enjeu de distinction que on se classe soi-même en disant qu'on est allé voir tel ou tel type de film, etc. C'est difficile. Il y a des choses qui sont difficilement avouables. Voilà.
Il y a eu des années où il n'y avait presque pas de présentation. Il y a eu aussi des années de restrictions budgétaires très fortes et où on a essayé de faire des présentations en les animant un peu de façon particulière et donc avec quelqu'un qui rédigeait des textes, qui les jouait, qui était un comédien, etc. Et qu'on a été par exemple obligé de supprimer complètement pour des raisons de budget insuffisant parce qu'il fallait plutôt consacrer l'argent à l'artistique, enfin ça fait partie de l'artistique, mais au film, au réalisateur, aux rencontres avec les réalisateurs, etc. Donc on fait effectivement au mieux avec l'idée qu'il faut de toute façon présenter quand même les séances au public.
Est-ce que les étudiants en langue, ils ne le feraient pas spontanément?
Non, personne ne fait spontanément.
Non,
il y a pas mal d'étrangers dans les séances.
Mais là, vous en
On est en train de mettre en place cette chose. Je ne peux pas vous répondre absolument formellement sur la totalité de votre question. Vous avez raison.
Ça m'amuse aussi les premières années, les réalisateurs qui venaient de l'étranger avaient des espèces de petits casques ridicules là pour, mais qui leur permettaient au moins d'avoir la traduction en anglais alors que c'était et qu'ils venaient de Corée ou de je sais pas où. Tout ça, ça c'est parti, on les voit plus les casques, donc je sais pas comment ils ont les traductions et ils se contentent peut-être du sous-titrage.
Tous les films sont visibles. En sous-titré français ou lisi par des anglophones. Il y a un double sous-titrage en anglais quand le film est tchèque ou le film est de langue anglaise et parle anglais. Comme très souvent, les films d'école allemands ont une version aussi anglaise. Tous les réalisateurs, il faut qu'ils parlent anglais ou français ou leur langue d'origine. Et là, ils peuvent voir tout, effectivement. Si un réalisateur tchèque veut voir un film bolivien et ne parle pas anglais, il aura un problème. Voilà.
Voilà. Il y a une période où vous avez dû avoir plus de langues.
On n'avait pas plus de langues, mais sauf qu'on avait, effectivement systématiquement une traduction anglaise au casque, mais qui était uniquement anglaise. Quand on avait des films, par exemple, qui étaient en espagnol, sous-titrés français. Voilà. Mais c'est pareil. Pour vous donner une idée, les casques pour une semaine, c'est 4000 euros. Donc, des fois, il faut consacrer l'argent à d'autres choses.
C'était des casques qui ne payaient pas de mine, c'était très amusant
quand même.
Mais au moins, il y avait.
Mais si vous voulez être mécène, madame, je serais très heureux de vous rencontrer à l'issue de la séance. En tout cas, moi, je suis content qu'on ait... Mais c'est vrai que cette idée de continuer, c'est bien. Il faut qu'on y réfléchisse.
Mais oui, c'est vrai que c'est dommage, en fait, là, parce que là, je pense que les... Effectivement, il pourrait y avoir un recadrage important.
On a des embryons de réponses qui peuvent nous être utiles, mais qui pourraient être complétés.
Oui, c'est évident.
On va faire une campagne d'entretien, et puis...
Je ne sais pas, peut-être... Ouais. Faut demander à lui quand j'ai libéré. C'est lui qui dirige là.
Comment ?
C'est gérable. Ça fait un an.
Vous avez dit qu'elle travaillait la nuit.
Elles sont invincibles, Isabelle et Anne. Elles sont inoxydables.
On va se reparler.
Voilà. Bon, eh bien, écoutez. On peut peut-être. Enfin, je vais encore. Merci.
Merci à vous.
Merci à vous et donc à bientôt. Au revoir.